souvent imposée aux pays du tiers-monde, Haïti est un cas, par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Au moment où les pays, justement, ont besoin de liquidités ou de crédits pour rembourser leurs dettes. Alors, très souvent, les programmes d'austérité, effectivement, peuvent avoir certains aspects positifs dans la mesure où ça peut permettre de mettre de l'ordre un peu dans la comptabilité du gouvernement. Mais très souvent, ce sont les secteurs les plus démunis, la majorité de la population, de celle qui souvent a la difficulté à joindre les deux bouts, comme on dit ici, qui est la plus touchée par ces programmes d'austérité. Parce que souvent, les programmes d'austérité invitent les gouvernements à couper dans leurs dépenses, surtout les dépenses sociales. Alors, on a vu plusieurs gouvernements du tiers-monde durant les années 80 qui ont dû couper de 25 % leurs dépenses, par exemple, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Les gouvernements ont dû réduire leurs dépenses de subventions au transport public ou encore aux denrées de base. Souvent, dans des pays, on a vu dans des pays comme la République dominicaine, on a vu la même chose aussi au Venezuela, au Brésil, on a vu des émeutes populaires assez importantes au moment où les gouvernements ont imposé ces programmes. Alors, on peut dire peut-être que dans les prochains mois, le gouvernement ici encore va être invité à assainir son budget, mais il faudrait voir à ce que, justement, ça ne soit pas à travers des programmes d'austérité aussi qui viennent rendre encore plus difficiles les conditions de vie de la majorité de la population.
Alors, tout de suite, nous allons faire, nous allons inviter Port-au-Prince à entrer en contact avec les intervenants, justement, Jean-Dominique. Jean.
Ça va, oui. Allô, Jacques, à Montréal. Merci à Fred Doura et à Guy Lafleur. Mais nous allons tout de suite donner la parole à nouveau à Philippe Rouzier qui va répondre à quelques questions soulevées par les intervenants à Montréal et aussi donner quelques précisions concernant les ajustements structurels et l'assainissement. Philippe?
Merci Jean. J'ai noté avec beaucoup d'attention, entre autres, salut Fred, puisque tu me l'as fait tout à l'heure. Je note simplement qu'il y a eu un peu plus de grâce vis-à-vis du temps que vous avez eu, vous, de votre côté. J'aurais bien aimé entrer dans les problèmes de l'agriculture, effectivement. On m'avait demandé de me limiter à la question actuelle, de court terme. Ceci dit, il est clair qu'il y a un problème de coût. La question de l'agriculture est en sous-jacente à la question de la vie chère. Et bon, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais ceci est du moyen terme. Absolument pas du court terme. Premier point. Deuxième point, je note la question soulevée par Fred, je pense, sur la balance de paiement, la balance courante et le budget. Simplement, c'est pas pour faire la leçon à quiconque, mais notre outil est bien le budget et pas la banque et pas la balance de paiement. On ne peut pas agir directement sur la balance de paiement, à moins d'aider aux réserves en devise, mais on ne peut pas agir sur la balance de paiement. C'est un résultat également sur la balance commerciale. L'outil est le budget. Troisième point, c'est que concernant la dette, Haïti a pratiquement pas de dette. C'est une dette en dessous d'un milliard de dollars. Haïti paye régulièrement. Il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas un problème de dette en Haïti. Autre point, Haïti n'a jamais su...
Philippe, le problème se pose au niveau du fait que la dette a été multipliée par plus de 20 en moins de 14 ans. Elle est passée aux environs de 40 millions les années 70 à 823 millions pour l'année 88, dette à long terme et court terme comprise. Le problème se pose, je suis d'accord qu'on peut agir, si tu veux, sur le budget, c'est sûr, mais en augmentant la production, ça peut permettre peut-être, et pas assez certain, la diminution des importations de céréales qui grugent énormément au niveau de, il faut payer ces importations de céréales, et qui est passé en 1974 aux environs à 205 millions de tonnes de céréales qu'on est obligé d'importer, de même que l'aide alimentaire est passée à 154 000 tonnes. À ce moment-là, ça fait plus de 300 000 tonnes de céréales. Ça contribue, à mon avis, à détruire la production nationale au niveau des céréales, au niveau
des matières de base que nous consommons en Haïti. Donc ça pose nécessairement des problèmes au niveau de la balance commerciale et normalement au niveau de la balance des paiements, qui connaît un déficit chronique. OK? Alors?
Alors, il y a là un ajustement structurel à effectuer entre CIBL et Radio Haïti. Ajustement structurel au niveau de la répartition des intervenants, répartition des interventions. Allô Jacques, voudrais-tu ne pas couper les intervenants de ce côté, parce que Philippe était en train de développer ses points de vue et puis brusquement il y a eu une interruption. Alors il faudrait qu'on puisse répartir les rôles. Disons tout de suite au niveau de cet ajustement structurel que nous allons essayer de respecter le temps qui est imparti à chaque intervenant et après l'intervention de nos amis autour de la table de Radio Haïti, nous donnerons la parole à nos amis qui sont à Montréal et vice-versa. Nous sommes d'accord sur ce protocole, Jacques?
Oui, il n'y a pas de problème, allez-y.
Oui, alors bon, moi, je continue. Fred, je ne suis pas en train de dire que la balance de paiement n'est pas... Ne doit pas être analysé. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis simplement que l'outil d'action est le budget et non pas la balance de paiement. La balance de paiement résulte de questions qui peuvent, des questions d'importation, de production, etc. Et il ne s'agit pas d'un outil de politique. À moins, comme je dis, d'agir directement au niveau des réserves de devises. Je parlais de la dette, non pas pour dire que, bon, somme toute, ce n'est pas un problème. Je dis que ce n'est pas un problème aujourd'hui, que la dette n'est pas à ce point un problème qu'il faille absolument éviter toutes sortes de mesures parce qu'il y a une dette. Nous ne sommes pas en Amérique latine totalement. Notre dette est petite jusqu'à présent. Nous pouvons encore la contenir quelque part. Question de subvention, comme soulevait Guy Lafleur tout à l'heure. Haïti, le gouvernement haïtien, l'État haïtien, n'a jamais subventionné le produit alimentaire en Haïti. Donc, il nous semble que nous ne sommes pas tout à fait dans le cas de figure des pays latino-américains, entre autres, comme la République dominicaine. Concernant également les ajustements, et Fred soulevait la question du commerce, c'est bien ce que je disais. Avant d'entamer une libéralisation ou un libéralisme à outrance de nos importations, je dis que la première toilette à faire, c'est chez nous, c'est-à-dire le commerce, la distribution. J'insistais sur le terme distribution parce qu'il y a là les questions de monopole sont d'abord logées là. Ensuite, on verra les questions de libéralisme, etc., du genre Fonds monétaire et Banque mondiale.
Ça veut dire supprimer les monopoles.
Supprimer les monopoles ou travailler à ce que ces monopoles soient régulés. Il faut qu'il y ait une surveillance des prix, une surveillance des marges de profit dans ce pays. Inadmissible que les gens continuent à faire ce qu'ils veulent. C'est pas possible. Il nous faut, et on s'éloigne très nettement de la question du libéralisme. Il faut bien comprendre cela. Avec cela, avec une surveillance des prix, ce n'est pas entrer nécessairement et totalement, entièrement dans la sphère privée, mais c'est la réguler, c'est assez. Et pour cela, il faut un État fort, à l'inverse du libéralisme.
Arrivons à l'assainissement dont tu as parlé tout à l'heure et que nos camarades de Montréal n'ont pas très bien compris, l'assainissement budgétaire et de l'administration publique, Philippe.
Bon, l'assainissement est tout simple. Hein. Nous avons un budget national mal orienté vers des secteurs qui ont toujours bénéficié de proportions exagérées dans le budget. Question de l'armée d'Haïti, par exemple.
Défense nationale,
bon. Nous avons une administration publique largement concentrée dans Port-au-Prince, inutile totalement dans les provinces. On se plaint alors de l'administration parce qu'elle ne fonctionne pas, mais bien sûr qu'elle ne fonctionne pas, elle est toute concentrée à Port-au-Prince, elle ne fait rien ailleurs. Il faudrait la rendre utile. En d'autres mots, elle nous coûte cher en termes de coût d'opportunité, cette administration. On paye beaucoup cette administration pour la soutenir et elle ne produit pas en retour ce que nous attendons d'elle. D'abord la facilitation, d'abord le service et l'encadrement, la fourniture de services publics. Etc., etc. Nous apprenons que les entreprises publiques sont chargées de dettes, ont des arriérés de paiement qui leur sont dus incroyables. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait une gestion de ça. Tout ça, c'est l'assainissement. Il ne s'agit pas de privatiser ou de ceci ou de cela. Non, il s'agit simplement de gérer ces choses-là. Et la gestion fait partie de l'assainissement, globalement. C'est également la question, l'assainissement vient également du côté de la monnaie. Il est totalement inadmissible qu'on continue à subventionner cette administration au travers d'une perte de nos réserves en devises. Il faut qu'il y ait une coupure très nette et très claire, bien vue, bien analysée, bien comprise par les chambres, des relations entre la Banque centrale, banque de l'État haïtien, et le budget national, et la liquidation du budget. Il faut qu'il y ait une coupure ou une surveillance très stricte de ce qui se passe entre les deux.
Philippe, oui? Je crois que tu as tout à fait raison. Au niveau de l'assainissement de la fonction publique, et le budget, à mon avis aussi, doit être orienté surtout vers le secteur agricole et vers les secteurs sociaux comme l'éducation et la santé.
Et si vous permettez, au prince, j'aimerais vous demander, Jean, d'introduire vos intervenants pour qu'ils parlent des pistes de solutions. Vous terminez avec ce bloc.
Merci, Jacques, Raymond. Les pistes de solutions, bien, alors, nous allons aborder la fin de ce premier bloc d'intervention. Il y aura Rosemée Eustache, il y aura Philippe Rouzier, évidemment, à nos côtés, il va intervenir une fois de plus, et avec cette conclusion à notre bloc sur la vie chère et sur les questions économiques.
Moi, j'aimerais bien revenir sur ce que vient de dire Philippe, et peut-être que ça va amorcer un peu les pistes de solution. C'est que tu réétablisses pour le public les relations entre l'assainissement et le coût de la vie chère. Tu comprends? C'est-à-dire, quelles seront les incidences sur le coût de la vie?
Oui. La relation est en principe simple, du moins en termes globaux. Hein. Plus vous dépensez inutilement, c'est-à-dire de manière non productive à l'administration publique et l'État en général, l'appareil d'État, plus vous dépassez le budget prévu. Okay? Le dépassement du budget prévu est ce qu'on appelle un déficit. Ce déficit doit être comblé, doit être payé quelque part. Et qui paye? C'est la Banque centrale qui paye. Et la Banque centrale, pour payer, va devoir changer ses devises pour avoir des gourdes payées. Ce qui fait qu'il y a une diminution des réserves en devises. Alors, ceci est en relation directe avec le problème du cours du change, des rapports entre la gourde et le dollar. Vous avez alors un problème de change, vous avez une gourde qui se déprécie par rapport au dollar, et ceci implique directement une hausse de coût de la vie. C'est-à-dire, les gens payent plus cher, certainement, les importations, les commerçants ou tout distributeur qui distribue le produit va charger la hausse du change, etc., etc. Donc, une réaction en chaîne ou tout ce que vous pouvez imaginer, mais directement sur le coût de la vie.
Et en freinant ce processus, c'est clair que ces déficits qui sont maintenant monstres et qui affectent donc le prix des marchandises pourront avoir porté une amélioration sur le coût et le prix des marchandises.
Sauf que je ferai une toute petite précision, il ne s'agit pas d'enlever le déficit. Le déficit n'est pas. Le problème n'est pas le déficit, le problème c'est la manière de combler le déficit. Mm-hmm. On peut avoir un déficit, pourvu qu'on sache prévoir les recettes.
C'est la manière dont c'est fait ici par la Banque centrale.
C'est la manière dont c'est fait et c'est la manière dont est gérée aussi la fiscalité de ce pays. Si les gens ne payent pas les taxes, et si les taxes sont mal collectées, mal administrées, etc., etc., il est clair que le déficit n'est pas. Récupérable.
Donc, et nous avons ainsi abordé les pistes de solutions.
Je suis au Québec, j'ai étudié, mais pourtant, j'ai réalisé l'importance d'un retour aux sources. Je me suis interrogée et ce soir, j'aimerais vivre avec vous cette recherche de nouvelles fierté.
Vite Haïti-Canada, l'excellence naît de l'effort. Assistez à la semi-finale de l'édition 1991 des spectacles Miss Haïti-Canada, présenté en collaboration avec les produits capillaires Les Soft, qui vous offre la solution pour une belle chevelure. baron Robert.
Haïti. Nous parlerons également, nous aurons quelques témoignages sur les projets de développement par des organismes canado-haïtiens et le Fonds délégué. Alors, des réflexions sur les thèmes, comme des thèmes choisis, des projets choisis, femmes et développement, santé, droits humains, environnement et agriculture. Alors, nous avons avec nous Jacques Raymond pour la présentation, si on veut, de l'aide canadienne et du programme de délégué, programme du Fonds délégué associé à Haïti.
Alors, au niveau de l'aide canadienne, Roger, on pourra dire surtout que par rapport à Haïti, il y a à peu près 14 millions de dollars qui vont en Haïti. Mais on ne va pas rentrer dans toutes les catégories de l'aide canadienne. Voyons d'abord uniquement le fonds délégué ACOSI Haïti. Ce programme est en action depuis 1987. Actuellement, il y a à peu près une cinquantaine de projets de développement dans différents secteurs d'intervention en agriculture, en environnement, en santé, en droits humains, et aussi en éducation, organisation de développement communautaire, qui se trouve actuellement en opération. Et pour constamment, une des préoccupations des personnes ici, c'est de dire comment que la diaspora pourrait être en relation avec les gens d'Haïti. Au lieu de parler là-dessus, nous allons de préférence le vivre. Il y aura les témoins de ces projets. Il y a des organismes de la communauté canado-haïtienne qui ont appuyé des projets des communautés paysannes, ouvrières ou des organismes intermédiaires de la société civile en Haïti. Ils auront l'occasion, ces témoins, de dire, voilà leur, et de présenter un petit peu leur association et en même temps de parler des réalisations et du cheminement qui se réalise en Haïti. Ce que je pourrais signaler, c'est dans ce bloc-là, c'est que ce programme du Fonds délégué est évidemment financé par l'Agence canadienne de développement international et c'est l'ACOSI qui est le responsable fiduciaire. Ce programme travaille aussi avec l'action, le support du secrétariat de l'ACOSI et du comité consultatif ACOSI Haïti formé d'une douzaine de personnes.
Alors, nous allons faire une pause musicale et nous revenons avec Rosemary Eustache qui va justement présenter, animer c'est parti de l'émission.
Sur le format de l'émission et sur les thèmes solidarité, démocratie, développement. Pour nous rejoindre, vous proposez le 597-2288, je répète, 597-2288 ou le 5-2-6 de 5-8 heures. Alors, nous commençons d'abord avec les projets de femmes. Avec nous à Montréal, Gladys Gilles de CARAC et Jean-Claude Icard du Bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal. Et en Haïti, nous avons
Rachel
Vinette et ainsi que Marie-France Joache. Alors, pour commencer, nous passons à CARAC avec Gladys Gilles dans le cadre du projet de SOFA. Gladys Gilles, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a amené à participer, à parrainer un projet de femmes en Haïti?
Et d'abord, Rosemée, je vais vous parler de CARAC, qui est une confédération qui regroupe 26 associations régionales haïtiennes au Québec. Ses objectifs, c'est d'aider les régions respectives d'Haïti en travaillant en étroite collaboration avec les groupes organisés sur le terrain même, donc en Haïti. Nous avons aujourd'hui abordé un nouvel axe en nous impliquant sur toutes les problématiques avec d'autres partenaires qui ne sont pas nécessairement des associations régionales, ceci toutes les fois que nous sommes invités à le faire. C'est ainsi que nous avons parrainé le projet SOFA, Solidarité Femmes Haïtiennes.
Et succinctement, quels sont les principaux objectifs de ce projet?
Les objectifs de ce projet, c'était au niveau éducationnel surtout que nous avons accepté de parrainer le projet en le présentant au fonds délégué ACOSI Haïti sur le thème « Mobilisation contre la violence faite aux femmes ». Nous nous accordons aujourd'hui pour le dire, toutes les sociétés s'impliquent sur cette problématique qui est la violence. Nous n'avons qu'à faire un tour de la ville de Montréal pour constater une multiplicité de panneaux publicitaires qui nous rappelle que la violence enfante la violence, ceci tant au niveau de la femme qu'au niveau des enfants.
Oui, alors, encore des petits mais on continue. En Haïti, on a Marie-France Poisson. Marie-France, est-ce que vous pouvez nous dire comment se vit le projet SOFA? Quelles sont vos activités? Et aussi, quelles sont les réussites de ce projet?
Bon, je dois d'abord dire, Rosemée, que nous avons avec nous ici Marie-France, c'est vrai, mais aussi Evelyne Larieux, qui, elle, d'abord, va nous parler du projet Mobilisation contre la violence faite aux femmes. Ensuite, Marie-France parlera sur le projet Femmes et Développement. Alors, Evelyne, nous passons au conne, dégageons.
Et justement, le projet que SOFA présenté, c'est un projet que SOFA a présenté à COSI, c'est sur sensibilisation et formation sur violence sous femme. C'est un projet qui est censé être basé sur l'année 90-91. Et bon, tant toute l'autre organisation est populaire, nous avons dit que SOFA, c'est une organisation qui est censée vu le jour le 22 février 86. Et nous avons dit que c'était très bientôt. Nous allons célébrer le 5e anniversaire SOFA, existence SOFA et souterrain. Donc, travail SOFA. SOFA lui-même, il croit que les femmes doivent participer activement et dans la lutte pour le changement et la société haïtienne. Et en même temps, il doit tout battre pour des problèmes spécifiques que les femmes eux-mêmes ont senti à vivre chaque jour. Et on a dit que, pour une petite présentation plus structurelle de l'organisation, et SOFA qu'on y a censé diviser en trois branches. Il y a une branche femme paysanne, une branche femme quartier populaire, et il y a une branche femme et socio-professionnelle. Et nous t'a dit que nous pas censé vraiment parler de femmes bourgeoises, mais ça va veut dire que nous connaissons femmes yo pas femmes bourgeoises yo, yo pas des problèmes femmes tant que normalement tant que toutes les femmes gain, mais comme SOFA lui-même il fait un choix spécial pour côté femmes et plus déshérités. Alors, c'est dans ce sens-là qui fait et nous pas vraiment voulu mettre deux classes à eux, qui sont ces deux classes antagoniques dans le même panier. Mais ça ne dit pas pour autant que si une femme bourgeoise qui a voulu une participation, beaucoup de femmes déshéritées, sauf après pour recevoir. Pour ne pas aller plus spécifiquement sur le projet et contre violence sous forme ça, nous avons dit que depuis 1987, SOFA a fait une mobilisation contre la violence qui est exercée sous forme. Et depuis 1987, nous avons commencé à faire des travaux, des coups de rassemblement, et nous faire des affiches pour nous faire une mobilisation et une sensibilisation à problème ça, qui est un problème grave, un problème de violence sous forme dans le pays d'Haïti. Comme ça, et nous avons dit tout le travail ça, de 1987 à 1989, nous avons essayé de faire avec des moyens du bord. Et c'est ça que fait en 1990, nous avons essayé de faire une demande à COSI qui permette que nous arriver, nous avons dit élargir quatre travail nous et puis mettre tout plus et plus possibilités pour nous toucher plus femmes. Et c'est dans ce sens-là, nous t'a dit aide à conscient permettre que nous-mêmes nous réaliser du bagage qui est très important en cours de affiche sous violence que nous coller dans la rue et que nous fait d'autres travail avec affiche ça tout. Nous fait tout un calendrier année ça sous de novembre 90 à novembre 91 qui calendrier ça compilé une série de affiches que Sofat a fait et on dit que son calendrier éducatif. Calendrier ça nous t'a dit que chaque par jour, gagne une affiche, soit qui explique un problème spécial femme, ou bien qui paraît directement avec problème violence. Tant que nous avons page septembre qui gagne une affiche sous lui, qui affiche ça explique clairement problème qui était posé en septembre dans Saint-Jean Bosco, côté y était femme ou votre femme, donc une femme qui était enceinte. Et nous avons dit que avec aide ça tout, il permet de nous faire de cassettes vidéo sur question violence sous femme et ensuite de séances de formation sur question violence dans diverses zones dans pays à côté Sofaye et surtout dans des occasions bien spéciales tant que dans mois de novembre nous fait de rassemblement pour montrer non seulement membres Sofayo qui déjà enclenché ce problème là mais d'autres femmes tout et peut-être population en général qui pas qu'au vraiment kembe situation et ou est clair la situation violence ça qui sous forme là c'est-à-dire pour nous piquer pour faire plus propagande sur question violence là. Alors m'a dit que elle ça
Marie France ou excusez-nous parce que ça a avancé rapidement en 1 minute dis-moi quand ça n'a pas le faire comment prochain mois vous présenter pour nous-mêmes vos femmes.
Bon, et bon faut me rappeler aussi pas Marie France c'est Evelyne qui a parlé là et pour m'a dit perspective que nous-mêmes nous gagner c'est continuer bataille et sous question violence parce que pour nous problème violence qu'on rete un m'a dit un choix de bataille pour organisation parce que et problème violence nous li c'est vrai nous entamel mais li pas qu'on jamais m'a dit résoudre donc problème ça c'est rive bataille organisation gagner pour rive bataille et continuer bataille m'a dit pour un long temps encore jusqu'à ce que en Haïti gon l'autre image de femme en tant que monde et non en tant que un moitié monde et surtout pour problème violence là que m'a dit moun yo considérer tant qu'un m'a dit un ce n'est rien un bail qui très fatal mais pour question violence là li considérer en tant qu'un crime tant que tout l'autre crime alors m'a dit.
Oui, alors nous vous remercions pile, malheureusement nous obligés d'être là et n'a pas fait à chacun avec Rachel Finet. Bonjour Rachel Finet.
Oui, bonjour. Ça oui. Va?
Rachel Finet?
Allô?
Oui. Jean-Claude Icar est avec nous du bureau de la communauté chrétienne des Haïtiens de Montréal. Et on sait que le bureau de la communauté chrétienne a accepté de parrainer un projet dans la région de Jacmel. C'est un réseau de femmes. Quatre femmes, Jean-Claude.
Bon, d'abord, vu que je fais partie aussi du comité consultatif à Haïti, il y avait une question de justice distributive, en ce sens que dans la région de Jacmel, ça veut dire dans le sud-est, il y avait à l'époque seulement deux projets. Donc, ça a été un des critères pour nous. Et deuxièmement, enfin, je ne me rappelle pas où j'avais lu ça, mais dans le conseil d'administration du bureau, au moment de la décision, quelqu'un était venu avec cette phrase que le développement serait féminin ou serait pas. En parlant du rôle de la place des femmes dans le développement, d'autant plus qu'il s'agit d'un réseau de femmes, généralement chefs de famille, qui est la situation, surtout en milieu rural, d'un grand nombre de femmes en Haïti. Il s'agit donc de former des groupes d'entraide et de solidarité d'environ une quinzaine de femmes chacun, et ces groupes visent très tôt à l'autosuffisance, en ce sens que la dimension de, en plus de l'entraide et de la solidarité, mais la dimension de production est extrêmement présente dans ce volet, et bon, avec, disons, des objectifs divers. Par exemple, l'un des premiers groupes à se lancer de la production, l'objectif, c'était la rentrée des classes. Avoir les moyens pour les maires de faire face aux dépenses de la rentrée. Donc, des projets, je dirais, relativement à ras le sol, extrêmement concrets, petits, oui, à l'échelle micro, mais la formation du réseau permet quand même une certaine prise de conscience, une certaine prise en charge, et permet de renforcer cette entraide au niveau local. Donc, pour nous, c'était un des projets prioritaires, d'autant plus que la situation de la femme est souvent utilisée comme indicateur du développement dans dans différents pays, enfin, dans beaucoup de pays en voie de développement. Et comme je le disais tantôt, cette perspective d'autosuffisance, donc de prise en charge par le groupe, qui semblait possible d'être réalisée relativement à court terme.
Alors, Jean-Claude, c'est un projet qui semble intéressant. On a perdu Rachel Finette à Jacmel. Tu la connais un peu, Rachel? Est-ce que tu nous dis un peu le travail qu'elle fait à Haïti?
Bon, en fait, l'une des autres raisons d'appui, bon, c'était parce qu'on aussi, on connaissait un peu les personnes ressources pour ce projet. Donc, l'encadrement à ce niveau-là, on avait, enfin, on était très conscient que ce groupe était supporté par des personnes dynamiques, intéressantes et qui ont déjà ce type d'expérience d'implication sociale et qui l'ont réalisé ailleurs. Donc, pour nous, c'était donc une grosse garantie à ce niveau-là. Ensuite, c'est un groupe qui avait déjà commencé à travailler. Donc, il s'agissait vraiment d'appuyer une action en cours. Il y avait déjà cette démarche de prise en charge à la base qui avait été entreprise dans cette région. Donc là aussi, c'était une autre garantie, disons, du sérieux de ce groupe et de leur capacité de mener à bien ce projet. Parce que c'est sûr que pour nous, ce qu'on fait, c'est donner un coup de pouce, je dirais ponctuel, à une démarche, mais qui est initiée de là-bas et qui se fait de là-bas et qui vise l'autosuffisance. Ça, c'est pour nous, c'était fondamental. Et à ce niveau-là, j'ai vraiment aucun doute sur la capacité, de ce groupe et des personnes qui l'encadrent à mener à bien ce projet. Et dans l'ensemble, vraiment, ça a été enfin, l'un des projets, je pense, pour lesquels on a été le plus satisfait en termes de réalisation concrète.
Alors, Jean-Claude, on te remercie et on donnerait une ou deux minutes à la discussion.